du 14 au 24 juillet sur les ondes de l'Écho des Planches, la radio du Festival d'Avignon. L'Écho Hugo, deuxième des actions déployées dans le cadre du programme Vecteur Hugo 2017. Cette émission vous reçoit 5 sur 5 pour mieux vous ouvrir les voies du possible. Vous avez votre mot à dire ? Contactez directement le 06 60 88 53 05. Et voyons-nous au rayon frais du grand supermarché du Festival d'Avignon. L'Écho des Planches, tous les jours, avec l'Écho Hugo. Chères auditrices, chers auditeurs, si vos oreilles sont toujours bien ouvertes et que vous les avez à l'œil, sachez que le temps est venu de prendre rendez-vous avec un gardien de la mémoire et qui, comme tous les gardiens de la mémoire, s'est engagé dans un travail de transmission au long cours. Et ce long cours est celui du mouvement de la régénération permanente, puisqu'il s'agit de Jacques Téfany, directeur de la source d'Avignon, à savoir de la maison Jean Villard. Jacques Téfany, nous sommes dans une histoire, dans un temps d'histoire assez particulier, qui est celui de l'accélération, qui nous appelle à prendre le temps face à cette espèce de grande amnésie collective qui a quelques tendances à nous broyer la mémoire de nos destinées collectives, toutes individuelles qu'elles soient. Où en sommes-nous, vous, le gardien des clés, puisque le Festival d'Avignon est marqué par cette symbolique de la clé? Où en êtes-vous vous-même dans ce travail de tous les passages que vous articulez depuis de longues années ?
Si je savais répondre simplement à cette question, je serais sans doute un malhonnête homme. Je sais pas trop où j'en suis. Je pense que c'est un travail. La mémoire, c'est une chose qui est partagée par nous tous. Par l'humanité, oserais-je dire. C'est donc un travail permanent, mais qui ne doit pas nous enfermer dans le passé. Donc le problème, c'est le dialogue de cette... on ne peut pas piloter le regard dans le rétroviseur. Néanmoins, il faut des rétroviseurs. Sinon, on est imprudent. Voilà, en gros, c'est ça. Maintenant, il faut regarder devant, et il faut qu'effectivement, ce qui était derrière nous nourrisse, nous fasse comprendre notre situation d'aujourd'hui, non pas parce qu'elle se reproduise, l'histoire ne se reproduit pas, elle bégaye, disait l'autre, mais en tout cas, la matière humaine, la psyché, les ambitions, l'homme, quoi, le bonhomme, la condition humaine reste quand même toujours la même. Alors, elle est dans des contextes et avec des moyens médiatiques en particulier différents, des horreurs différentes qui sont aussi horribles les unes que les autres. De ce côté-là, l'invention est infinie. Voilà, nous sommes dans un monde inquiet, mais qui est peut-être aussi dans un confort, précisément dans le confort de son ignorance. Je disais l'autre jour, bon, c'est vrai, et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, les complots, les attentats auxquels nous assistons aujourd'hui sont une épouvante absolue. Mais bon, dans les années 50, cette guerre d'Algérie a tué 35 000 jeunes Français et sans doute près d'un million d'Algériens. On est loin du compte encore. Cela dit, ces actes sont absolument inqualifiables. Enfin, je ne sais pas comment les qualifier. D'ailleurs, ils ne se qualifient pas. Mais vous voyez, je crois qu'il y a aussi l'Occident et l'Europe en particulier est dans un moment de non-regard sur le passé ou d'un manque. Il ne faut pas non plus dire qu'ils ne regardent pas du tout, parce que c'est pas vrai. Mais il y a il y a un déficit d'histoire, il y a un déficit de connaissance du passé qui me paraît dommageable. Alors, quant à notre minuscule histoire avignonnaise et théâtrale ou culturelle, pour être un peu plus large, il est vrai qu'elle tient ici un trésor particulier qui est le fonds Jean Villard, dont l'association Jean Villard à la garde. Ce fonds est fréquenté, il y a des chercheurs, il travaille bien, il est bien illustré, on ne peut pas imaginer beaucoup plus, parce que c'est quand même un fonds très particulier sur une histoire très particulière, le théâtre, Avignon, le TNP, etc. Cela dit, c'est vrai que cette maison peut devenir, parce qu'elle ne l'est peut-être pas assez, la maison de réflexion de ces métiers du théâtre public. Et je pense que c'est vers cela qu'un nouveau projet artistique dans cette maison devrait venir se développer dans les mois qui viennent. Puisque j'ai décidé moi-même de prendre du champ, je resterai présent parce que je suis très attaché à cette maison, mais je ne veux pas gêner du tout le prochain projet. Mais je pense que le prochain projet devrait se distinguer par cette capacité à rassembler ici la jeune création.
Dernière question, Jacques Téphanie, concernant justement, puisque vous parlez du prochain projet. Le prochain projet, Avignon, est en lui-même un projet au long cours, même si je pense que Jean Villard ne pouvait peut-être pas s'imaginer que 70 ans après sa première édition, il serait cet appel à la rencontre du vivant autour du théâtre vivant donnerait lieu à une confusion pour le meilleur et pour le pire entre les marchandisations et puis voilà une sorte de bouillamini de tous les sens ou la perte de sens que Avignon finalement provoque aussi. Ma question est la suivante, avez-vous espoir que la vision de Jean Villard régénérée dans l'urgence d'aujourd'hui à Avignon puisse s'incarner dans un autre rapport, justement dans un rapport lié à celui du temps de la création, du temps de la rencontre, qui puisse en effet remplacer celle de la surconsommation et de l'accélération de la productivité temporelle qui fait que aujourd'hui, si on parle du off, le créneau horaire est une marchandisation. Donc est-ce que l'avenir, s'il doit y en avoir un, moi personnellement je ne sais pas, j'ai un côté de moi qui est très, très pessimiste et l'autre très optimiste, puisque Villard voulait une ville théâtre qui à mon sens n'existe pas encore, mais je pense que la question de la ville théâtre, et là on est dans la question politique, puis dans du désir et de la volonté politique, est-ce que le symbole d'Avignon pourrait être incarné dans toutes ces gènes sans se gêner les uns les autres au cœur d'une ville de l'exploration et de la curiosité permanente qui prenne le temps de la rencontre?
Je n'insiste un peu rien. Ce que je veux dire, c'est que d'un côté, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Bien sûr, le off est une marchandisation, le créneau horaire, etc., etc. Bon, même dans cette contrainte, il y a aussi des choses remarquables dans le théâtre off. Bon, allez, disons que toute médaille a son revers. Le festival, il est dirigé par une voix que je trouve d'altitude. Il est Olivier Py a une vraie tenue, il a une vraie admiration pour Villard, et je crois que il porte haut ce flambeau-là avec ses contradictions et avec son contexte et avec son parler d'aujourd'hui, avec ses complexités d'aujourd'hui. Il est catholique et s'affirme, il a fait son coming out, il est catholique homosexuel. Villard n'était ni catholique ni homosexuel. Bon, mais Villard en son temps était homophobe parce qu'il était un homme de son temps. Et dans les années 50-60, mon cher père qui a l'âge de Villard ne supportait pas cette chose-là. Donc les choses ont tellement changé, les esprits ont tellement changé que on ne peut pas se dire est-ce que Villard ceci, est-ce que Villard cela. Ça, je ne le sais pas. Alors il y a une chose qui pourrait être intéressante, c'est qu'en 68, quand il a été fortement contesté, il leur a dit, aux enragés, il leur a dit « Moi, si j'étais vous, plutôt que de venir embêter un vieux barbon comme moi, j'irais créer un festival ailleurs. » En affirmant, ce que vous êtes en train de dire, mon cher Laurent, en affirmant ce que vous me dites. Mais alors faites-le. Plutôt que de venir me casser la figure, faites-le et montez-le ailleurs. Évidemment, c'est une autre paire de manches que de venir contester. Contester est facile, la critique est aisée et l'art est difficile. Il est possible, alors par ailleurs, Villard estimait qu'il était un apprenti sorcier et que la machine lui avait échappé. Bon, maintenant c'est une machine à succès. Et Villard se méfie du succès. C'est pas qu'il ne l'aime pas, il sait que le succès est nécessaire à une stratégie. Parce qu'il a bien réussi lui-même, n'est-ce pas? Mais il y a un moment où le succès crée un style, et là, ce style, ça veut dire qu'il y a, que la routine arrive et qu'il faut rechanger et repartir ailleurs. Donc c'est un homme qui nous indique des chemins divers et variés. Enfin, il nous indique pas des chemins, il nous indique des écueils. C'est en quoi il est un phare. Hein. Le phare n'indique pas le chemin. Il dit là, ça va pas. Et je crois que c'est ça que je retiens de Villard. C'est ça que la Maison Jean Villard essaie de faire passer comme message. en essayant de trier le vrai du faux, le bon du mauvais, sans avoir non plus, on n'est pas, je ne suis pas, encore moins moi qu'un autre, on n'est pas non plus des ayatollahs, on n'est pas là pour donner des blancs-seings aux uns aux autres, je ne suis pas dans un mirador pour donner les bons points, mais simplement essayer d'exprimer et de pratiquer un esprit critique qui nous permet de dégager des lignes de force intéressantes. Moi, je crois que c'est à ça que sert une maison de mémoire et c'est à ça qu'on s'est employé pendant quelques années ici et je l'espère que cette maison continuera de s'employer.
Écoute, Jacques Téphany, nous allons tous nous déployer à nos employés. Et puisque vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes atteint du VH17, ce fameux virus humaniste. Voilà, et vous êtes donc un emblème du vecteur Hugo 2017. Et vous êtes en pleine santé. Que vous nous offrez aussi. Merci Jacques Téphany, merci à vous. Voilà, vous êtes toujours sur l'écho des planches en l'écho Hugo. Eh bien, puisque Hugo, il faut y aller. Et puisque nous sommes aussi dans un sacré pétrin, je viens de rentrer dans une boulangerie utopiste. Alors, une boulangerie utopiste. Donc, on est censé y trouver des utopiques sur la piste. On rentre dans une boulangerie utopiste et on va tout de suite en face. Qu'est-ce que ça veut dire que elles reviennent. Alors, mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qu'une boulangerie utopiste ?
Boulangerie utopiste, c'est une boulangerie où on veut faire des bonnes choses avec des bons produits, bio, locaux quand c'est possible, et où on n'est pas juste un dépôt de pain, mais on crée du lien dans le quartier, entre les gens, voilà.
Vous nous mettez dans un vrai, vrai joli pétrin. C'est ce que le théâtre devrait faire. Vous le faites avec le pain. Hein. C'est-à-dire que Avignon n'est pas juste un dépôt de théâtre, non hein, je crois. Donc vous vous engagez.
Bella Ciao. C'est pour ça qu'on s'appelle Bella Ciao. Vous connaissez la chanson. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato, io ho trovato l'invasor.
Bravo, bravo. Eh bien, voici, mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, surtout, militez maintenant à Avignon, non plus pour le théâtre bio, mais pour la boulangerie utopiste. Soyons utopistes, mettons-nous en piste. Hugo, sur l'écho Hugo de l'écho des planches. Merci à vous. Voilà, l'écho Hugo, c'est parti. Hugo, comme dit l'écho, il faut y aller. Je suis avec Brigitte Bertrand. Brigitte Bertrand, l'écho Hugo n'est ni in ni off, il est if, comme vous le savez peut-être. Eh bien, cela tombe très bien puisque vous aussi, vous êtes diff, hein, n'est-ce pas ? Vous êtes diff et vous êtes en charge au sens de la conséquence de toute la responsabilité du monde contenue dans un théâtre, comme un ascenseur peut être chargé de ses allers-retours entre les hauts et les bas du monde, mais en même temps dans une relation au vivant, d'un théâtre qui est l'espace Jean Villard, on va dire pour certains qui se voudraient pointilleux, le théâtre Jean Villard, mais depuis que Jean Villard aussi, et j'ai envie de vous poser la question suivante, puisque vous êtes au cœur d'un processus qui est celui du trait d'union entre l'exploration, l'expansion, l'émancipation, l'ouverture, l'imagination de la création générée par toutes sortes d'artistes et d'autres réalités qui sont peut-être moins joyeuses d'une certaine manière, qui sont celles du rapport au politique. Parce que quand on gère un lieu, j'allais dire quand on digère un lieu, on est à cet endroit-là. Donc vous êtes une personne qui est, donc je redis ce mot, en charge d'une utopie, confrontée aux réalités. Quelle est dans cette situation-là à la fois votre regard d'aujourd'hui, et est-ce que votre regard aujourd'hui suggère un appel à la fois aux artistes et à la fois aux politiques, puisque vous êtes au centre?
Oui, enfin, je suis peut-être au centre entre l'artiste et le politique, mais je suis aussi, enfin, je pense que ma mission, c'est de mettre en rapport l'artiste et le public. Et c'est le citoyen qui est important, je pense, à mon niveau. Et moi, ma mission principale, hein, c'est de mettre en relation l'artiste et le citoyen. Puisque l'artiste développe une pensée, propose, le spectateur reçoit, et c'est lui qui fait le chemin. Et j'ai envie de proposer différents chemins de pensée au spectateur.
Oui, mais vous parlez du spectateur, des citoyens, mais comme...
C'est le spectateur que je fais ce travail. Aussi.
Bien entendu, mais le spectateur, il est dans l'espace du commun, qui est une ville, une région, un département, un continent. Il ne s'en rend peut-être pas compte, mais quand il vient chez vous conséquemment à des ouvertures ou des fermetures d'ordre politique aussi, puisque là il s'agit de moyens qui vous sont donnés à différentes latitudes. Donc vous êtes quand même confronté en termes de marge, de manœuvre. Donc comment est-ce que ça se passe en fait? C'est intéressant parce qu'ici on est en Avignon. J'imagine que comme tous les programmateurs, directeurs, directrices de théâtre, vous êtes sollicités en permanence. Donc voilà, c'est moi ce qui m'intéresse, votre voix m'intéresse sur votre situation d'entre-deux, où vous êtes en même temps au cœur de tous les croisements de la réalité.
Eh bien, je crois que c'est mon travail, c'est de convaincre, hein. C'est d'emmener, c'est de faire rêver, et c'est d'emmener un politique sur tenter d'amener le politique sur le chemin que j'ai choisi d'arpenter, et si possible le faire avec lui. Je crois qu'il faut toujours rêver grand, puisque la réalité nous rattrape toujours et que ça diminue. Donc si qu'on commence à rêver petit, on est mal parti. Et c'est pour moi, c'est mon travail, c'est d'avoir suffisamment de conviction pour emmener le politique dans ce que je rêve de faire.
Et donc vous avez un travail de, excusez-moi, le mot va peut-être vous paraître un peu fort, mais vous avez une mission quasiment de transformatrice quelque part.
J'ai une mission de service public, de service au public, de service public aussi, puisque c'est bien avec l'argent des contribuables que je travaille. Et j'ai toujours ça dans la tête. Et comme mon travail, c'est de mettre en lien l'artiste et le spectateur, c'est quand même ça le noyau dur. Alors bien sûr, il faut que je puisse convaincre le politique de me donner des moyens de mettre en relation l'artiste et le spectateur. Alors c'est pas toujours facile. On parle de rentabilité. On est dans une époque où on parle beaucoup de rentabilité économique. Je dirais que pour moi, mon travail, il est rentable, hein, mais peut-être pas d'un point de vue purement matériel. Hein. Il est rentable parce que mon travail, c'est aussi d'aider des gens à penser, à réfléchir, à être actifs, à devenir des citoyens ouverts au monde et ouverts aux autres, et à moi de convaincre le politique qu'il me donne suffisamment de moyens pour me permettre d'effectuer cette mission.
Et votre regard en fait sur l'urgence en fait, parce que nous à l'écho Hugo, dans le cadre de Victor Hugo 2017, puisque vous le savez certainement, ou si vous ne le savez pas, je vous le apprends, que Victor Hugo sera candidat en 2017, bien sûr, dont le programme est entièrement ancré sur le socle sociétal qui est celui de l'art, de la culture et de l'éducation. Quel est votre regard sur l'évolution des choses qui s'accélèrent en rapport avec toutes ces failles systémiques? D'un côté, ce que l'on sait à travers tous les carnages qui appartiennent à une sorte de séisme civilisationnel, on pourrait dire comme ça. Et sur le plan local, sur l'urgence d'agir, puisque finalement tout part du local et vous êtes bien placé pour le situer. Quel est votre regard et la question de l'éducation, on nous parle beaucoup d'éducation, n'est-elle pas, puisque vous parlez bien sûr des spectateurs, du public, je préfère parler des spectateurs, j'imagine qu'il y a aussi un rapport d'éducation, non pas au sens moraliste du terme, mais au sens de l'enrichissement, de la découverte, du décloisonnement, puisqu'en plus vous êtes spécialisé, enfin vous êtes spécialisé, c'est pas une spécialité, vous êtes engagé sur le décloisonnement, sur les formes croisées. Donc c'est très, très important. Mais alors justement, ces formes croisées qui manquent à la politique, finalement au niveau de la pensée politique, n'y a-t-il pas un besoin d'éduquer les politiques?
Oui, oui, il y a un besoin. Je pense, quand j'entends, j'ai accueilli la saison dernière le spectacle Les Misérables de Victor Hugo, et ce texte il a été écrit en 1862, et on est en 2016, et c'est comme s'il avait été écrit aujourd'hui. Enfin, il est toujours d'actualité, il est toujours aussi pertinent, puisque je pense que les politiques ont oublié ce que la culture et la fréquentation, la confrontation à l'art, elle peut donner aux citoyens. Hugo avait envie d'un homme libre et libre dans sa pensée, un homme qui s'élevait. Et en ça, il a été rejoint en 1945 par tous les, je dirais, le Conseil de la Résistance, qui lui, en faisant le théâtre populaire, Jean Villard, enfin, je veux dire, l'espace que je dirige, il s'appelle Jean Villard. J'ai lu la biographie de Jean Villard parce que pour savoir un peu quel était cet homme, tous ses idéaux, tout ce qu'il menait, tout ce qu'il faisait qu'il avait envie d'aller se battre. Ils sont toujours d'actualité, et il y a des moments où ça me terrifie que ce soit toujours autant d'actualité et qu'on n'ait pas avancé plus par rapport à ça, quoi. Et je me dis que on a de plus en plus on est entouré de technocrates cravatés qui ont fait des études, hein, qui savent faire des soustractions, qui savent faire des divisions, mais les hommes, c'est pas des chiffres, c'est pas des nombres, c'est des hommes avec tout ce que ça implique, enfin l'humain, le genre humain. Et moi, je pensais naïvement qu'un politique, c'était quelqu'un qui était visionnaire, qui avait une pensée qui allait plus loin et qu'il avait, voilà, il projetait.
Vous pensiez qu'un homme ou une femme politique était forcément Victor Hugo?
Quasi. Qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, que pour moi, être homme politique, ou enfin être un politique, c'est avoir une pensée, et une pensée pour faire grandir, une pensée pour enrichir, une pensée. Et puis, je me rends compte qu'on a souvent affaire à des comptables, hein, et pas à des idéalistes.
Alors, dernière question, puisque vous parlez de comptables, peut-être sommes-nous comptables aujourd'hui, puisque nous sommes en plein état d'urgence sécuritaire, qui, sur le plan de la, comment vous dire, sur le plan de la réaction subie, nous paraît quelque peu légitime sur certains angles. Mais ça nous paraît quelque peu illégitime sur le fait qu'en face de cet état d'urgence sécuritaire, nous ne voyons pas grand-chose. Donc n'est-il pas venu le temps de répondre à cet état d'urgence sécuritaire par un autre état d'urgence? Vous avez employé le mot de la liberté, qui est, je pense que la liberté est, profondément, essentiellement relié à la question de la création. Et là, quand je dis création, je ne parle pas uniquement du champ artistique. Je parle de l'invention du possible qui appartient à chacun dans tous ses savoir-faire, dans toutes ses compétences. Vous êtes bien placé pour le savoir, puisque je le redis, ce qui est très, c'est pour ça qu'on vient vous voir. Votre champ d'action, d'exploration est celui des regards croisés, des parcours croisés. Donc nous ne sommes pas au temps des croisades, ou plutôt nous ne voulons pas l'être, nous ne voulons pas subir non plus les croisades. Comme le disait Victor Hugo, les croisements ne sont pas moins nécessaires pour la pensée que pour le sang.
Alors là, je suis presque sans voix. Je pense qu'on est à une époque où on doit faire un choix de société entre la sécurité et la liberté. Et ce choix-là peut faire peur à certains, mais y a toujours un risque. Enfin, le risque, il existe. Et si on veut tout protéger, enfin, on n'arrête pas de parler de risque zéro, qu'il faut tout préparer, etc. Et on voit bien avec ce qui se passe, le risque zéro, il n'existe pas. Le risque, il existe. Mais la liberté, c'est de savoir que le risque, il existe et de faire ses choix en fonction de ses risques et de sa liberté, enfin, de la préserver. Je pense que c'est important et de ne pas accepter tout pour la sécurité. Ça, c'est très personnel. Et pour moi, je dirais l'idéal absolu, puisque vous avez envie d'avoir, vous avez l'air d'avoir envie de tout savoir, c'est ma grand-mère, en tout cas politique. C'est 1936, c'est la guerre d'Espagne. C'est une république qui se veut anarchiste et respectueuse. C'est une république qui se veut émancipatrice. C'est une république qui défend le droit des femmes, qui veut beaucoup de paysans étaient illettrés, enfin, qui veut amener la lecture et la culture. Et c'est une république qui a été broyée et qu'on a laissée en place, même après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Espagnols pensaient qu'Hitler, ayant été copain avec Franco, avec Mussolini et Hitler, que Franco ayant été copain avec Mussolini et Hitler, bien il partirait avec eux. Et bien non, il est resté en place et rien n'est réglé. Et tant que nous n'aurons pas d'utopie, puisque c'est l'utopie qui nous pousse et qui nous donne de l'énergie et qui nous fait avancer. Et tant que nous ne pourrons plus avoir d'utopie, on va stagner et on va choisir la sécurité. Et ça, c'est bien dommage.
Brigitte Bertrand, merci infiniment. Alors, je vous transmets, d'abord, avant de vous transmettre ce que je vais vous dire, puisque vous parlez d'utopie, pour revenir à Victor Hugo, il nous dit et il nous annonce pour son programme 2017 que l'utopie est la vérité de demain. Mais demain ne peut attendre. Ceci dit, ces trois derniers mots de sa vie antérieure, on vous dira les trois premiers mots de sa vie ultérieure, mais les trois derniers mots qu'il nous a légués et dont nous faisons devise pour Victor Hugo 2017 sont extrêmement simples. Lui qui a écrit « Des océans debout », il nous permet de nous relever avec ces trois mots « Aimer, c'est agir ». Je vous propose de le transmettre à toutes vos tutelles politiques et d'autres sphères, si vous le voulez. Merci, Brigitte Bertrand.
Merci.
Merci. C'était l'écho Hugo sur l'écho des planches. Tous les jours à 17h jusqu'au 24 juillet. Dans le cadre du programme Vecteur Hugo 2017. D'ici là, n'oubliez pas, aimer, c'est agir.